c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Chacun d'entre vous, je souhaite une excellente journée avec des sourires au programme et beaucoup d'optimisme. Et oui, l'optimisme, n'est-ce pas l'aimant à bonheur? Et oui, alors restez positifs car les bonnes choses viendront à vous. Tournons-nous vers le soleil afin que l'ombre reste derrière nous. À l'occasion, tu souris. Coralie Clément.
Je suis, on ne sait pas, on sait qu'avec des si, on ne refait pas, on refait à l'infini, au même endroit, les mêmes conneries. On connaît du soleil ce qu'on nous en je suis. Je n'y suis pas. Je sais, mais fais comme si j'étais là-bas, du bon côté de la vie. De la vie qu'elle n'a pas de prix.
Coralie Clément sur Radio Plus. Alors aujourd'hui, eh bien nous le retrouvons enfin, Jean-Louis Ouattet, président de l'Étrême Nature, pour notre rubrique Saletant sur la planète. Alors la semaine dernière, souvenez-vous, j'avais abordé le sujet de la puberté précoce chez les jeunes filles due aux perturbateurs endocriniens. Eh bien nous en parlons encore cette semaine de ces substances, puisque selon une étude de Santé publique France paru mardi 3 septembre, eh bien les polluants du quotidien, c'est-à-dire les parabènes, les biphénols et autres, seraient présents dans l'organisme de tous les Français. Oui, nous sommes tous concernés. Alors les enfants, bien sûr, seraient particulièrement vulnérables. Hein, on a déjà plusieurs fois abordé ce thème dans cette rubrique avec Jean-Louis. Mais bon, on insiste, car nous, en tant que consommateurs, nous avons des choix à faire et ces choix peuvent quelquefois faire changer les choses. Mais pour cela, bien sûr, il faut être au courant et c'est pour cela qu'on vous informe le plus possible. Et puis, c'est aujourd'hui la journée internationale de la protection de la couche d'ozone et bien sûr, Jean-Louis ne pourra pas faire sans nous en dire un mot. Bertrand Trinel, lui aussi, est de retour après une fête de la tomate qui a encore une fois tenu toutes ses promesses. Nous ferons d'ailleurs un petit bilan avec lui avant de poursuivre avec notre jardinage bio. Avec notre jardinage bio, c'est-à-dire qu'on parlera de plantation de saison, de désherbage des allées et terrasses et de permaculture. Eh bien voilà, un programme encore chargé aujourd'hui et je vous dis très très bonne écoute à vous.
Si tu ouvres les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais. Soleil, juste pour changer de peau, il caressait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau, le monde beau. Changer de peau, si tu laisses le vent emporter tes tourments en chemin, que renaisse le feu qui brûlait dans tes yeux. Sommeil te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau, le monde beau. Si tu ouvres les yeux juste pour voir un peu devant toi.
Vanille sur Radio Plus, vanille, voix suave et beauté métissée. Et oui, c'est la fille de Julien Clerc, tel père, telle fille. Alors notre enquête dans l'air du temps, et c'est vraiment dans l'air du temps, la disparition des caissières. Les caisses automatiques menacent un métier né avec la grande distribution. On peut tous faire un petit peu de résistance, car une caissière qui a le sourire, c'est quand même agréable. le robot, c'est bien, ça va vite, mais à force, nous serons tous remplacés par des robots et ne deviendrons pas nous-mêmes des robots avec des numéros obligés d'exécuter certaines choses. Et puis, pour revenir à nos caissières, il paraît que ce changement est inéluctable à cause de la crise des hypermarchés. Bon, je vous laisse méditer, n'est-ce pas, la crise des supermarchés, ça fait un petit peu rire. C'est vrai que les grandes surfaces ne font pas beaucoup de bénéfices, n'est-ce pas, ni sur notre dos, ni sur celui de nos agriculteurs et cultivateurs. Et comme dirait Jean-Louis, que nous retrouverons dans quelques minutes, n'oublions pas, justement, que choisir, c'est agir. Et j'ajouterai aussi que nos choix sont souvent nos emplois. Et puis, je rajoute, vive les petits magasins et les artisans.
vraiment.
Eh oui, pensons à nos petites caissières et je rappelle, comme dit souvent Jean-Louis, à choisir c'est agir. Il nous le rappelle souvent et justement Jean-Louis Ouettet, président de l'Étrême Nature, que nous avons en ligne pour notre rubrique « Saltant sur la planète ».
Saltant sur la planète, oh le drôle, drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors savez-vous que je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison?
Eh bien, oui. Moi aussi.
Car malheureusement, rien ne s'arrange, n'est-ce pas, du côté environnement. Et notre principal souci à vous et à moi, ce n'est pas de faire du catastrophisme, mais c'est d'expliquer, de faire comprendre quelquefois le pourquoi du comment. Et quelquefois tenir un discours qui puisse réveiller les gens. Car chacun de nous peut apporter sa pierre à l'édifice en faisant un petit effort ou alors simplement le bon choix pour que notre planète ne devienne pas, on va dire, invivable, ne devienne invivable un petit peu moins vite, hein, on voudrait le plus tard possible. Hein. Alors, pensons à nos enfants. Merci donc à vous Jean-Louis. Alors, je parlais de nos enfants pour la première fois. Santé publique France a mesuré la présence des polluants dans l'organisme des enfants et des adultes auprès d'un large échantillon représentatif de la population générale composée de 1104 enfants et de 2503 adultes. Ces polluants sont présents dans l'organisme de l'ensemble des adultes et des enfants avec bien sûr des niveaux d'imprégnation plus élevés retrouvés chez nos têtes blondes. Alors c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, Jean-Louis, et tous les magazines en parlent parce que ainsi que de nombreux médias. Hein. Alors quant à nous, depuis le début, nous pointons du doigt toutes ces substances dangereuses. Mais Jean-Louis, vous nous dressez à nouveau une petite liste en nous rappelant dans quoi on les trouve, même si j'ai envie de dire, on les trouve partout finalement.
Oui. Enfin bon, il y a quand même des perturbateurs qu'on va retrouver dans des produits bien spécifiques. Alors bon, on en a déjà bien parlé, hein, c'est le bisphénol, les phtalates, les parabènes, il y a les éthers de glycol, les retardeurs de flamme bromée, on en parle moins, les composés perfluorés. Donc pour la première fois, donc vous le disiez, Santé publique France mesure la présence de ces polluants dans l'organisme des enfants et des adultes auprès d'un large échantillon. Donc il y a eu près de 70 biomarqueurs qui ont été étudiés. Et ça permet d'identifier comment ces personnes ont été exposées à ces substances. Alors, les résultats sont évidents. Ils montrent que ces polluants sont présents dans l'organisme de l'ensemble des adultes et des enfants, que les niveaux d'imprégnation mesurés sont comparables à ceux d'autres études qui sont menées à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Canada. Bon, à l'exception des retardeurs de flamme bromés, des bisphénols S et F et des parabènes. Et puis, en général, avec des niveaux d'imprégnation plus élevés qui sont retrouvés chez les enfants. Alors, si on reprend un petit peu quelques-uns des perturbateurs qu'on a étudiés, il y a les bisphénols, hein, c'est des substances chimiques de synthèse qui sont utilisées dans la production des polycarbonates et résines. On les retrouve dans la fabrication des éléments électroniques, d'emballages alimentaires, de papier thermique, de peinture, de vernis. Hein, ils sont utilisés depuis plusieurs années comme alternative au bisphénol A, hein, qui a été reconnu comme perturbateur endocrinien par l'Organisation mondiale de la santé. Après, il y a les phtalates, hein, c'est des substances chimiques qui sont présentes dans nombreux produits de la consommation courante, que ce soit emballage alimentaire, les jouets, les revêtements de sol en vinyle, les produits cosmétiques, entretien ménager, etc. Donc l'alimentation participerait à 90% de l'exposition totale. Alors l'utilisation de certains phtalates dans les jouets, les appareils électroniques, les emballages alimentaires, dispositifs médicaux, etc., c'est encadré par la réglementation européenne et française. Et c'est considéré comme des perturbateurs endocriniens. Les parabènes, bah, c'est des agents conservateurs dans les produits cosmétiques et de soins personnels en raison de leurs propriétés antibactériennes et antifongiques, mais c'est aussi utilisé dans l'alimentation, dans les produits pharmaceutiques, donc c'est très présent, sont très présents dans notre environnement quotidien. On en parle beaucoup moins. Les retardeurs de flamme bromée, les RFB, sont utilisés dans de nombreux objets de la vie courante. Même s'ils ont été largement réglementés depuis le début des années 2000, ils ont un caractère semi-volatile qui favorise leur émission dans l'air et leur transport sur de grandes distances. Donc c'est des polluants organiques persistants qui ont contaminé progressivement l'environnement et qui se retrouvent maintenant dans la chaîne alimentaire. Et malheureusement, il y a eu peu d'études épidémiologiques qui ont permis d'estimer l'impact sanitaire. Il y en a quelques-unes toutefois qui montrent que ça a un impact sur le diabète, sur le comportement neuro-comportemental, la reproduction, l'altération de la fonction thyroïdienne et les cancers. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Les éthers de glycol, ça rentre dans la composition d'une très large gamme de produits à usage industriel, comme les produits Dialo, les peintures, les encres, les vernis, les colles, les produits ménagers. Donc il y a une grande fraction de la population générale qui est exposée à ces composés. Donc voilà un petit aperçu des produits.
Alors finalement, Jean-Louis, c'est quand même un véritable fléau pour la santé publique et puis c'est une très grande préoccupation sanitaire.
Tout à fait, parce que tous ces produits sont des perturbateurs endocriniens et donc c'est des substances, par exemple les phtalates, c'est des substances toxiques pour la reproduction. Des effets sont suspectés sur le système reproducteur masculin et sur la fonction thyroïdienne. Et puis une exposition aussi prénatale, c'est aussi important, qui peut perturber le développement de certains tissus ou organes, avec des conséquences sanitaires possibles à l'âge adulte, voire après plusieurs générations. Mmh. On a d'ailleurs eu une conférence, c'était il y a 2 ans je crois, avec le professeur Besson, qui est responsable de l'unité pédiatrique de Jeanne de Flandre, et qui mettait en évidence justement tous les problèmes... tous les problèmes génitaux qui sont relevés avec justement tous ces perturbateurs endocriniens.
Et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons parlé de puberté précoce.
Voilà,
là aussi,
tout à fait. Cette puberté précoce, les malformations congénitales, et c'est des choses qui sont régulièrement et de plus en plus fréquentes chez les enfants, c'est quand même quelque chose d'important et d'inquiétant, justement, c'est une grande préoccupation sanitaire.
Mais alors justement, Jean-Louis, que fait la police? Je veux dire, que font nos gouvernements?
Je pense que les gouvernements ne restent pas les bras croisés, mais les choses sont pas faciles parce que il faut faire évoluer la réglementation à l'échelle européenne. Et je pense que justement le public, la sensibilisation du public est fondamentale sur ce type de problème. Et c'est des choses dont on commence à parler maintenant de plus en plus dans les médias. Le problème, c'est que on a quand même un sujet qui est quand même pas facile à traiter, parce que où on retrouve ces produits, c'est dans des produits les moins chers possibles, et donc on a une fracture sociale sur ce type de sujet, et donc c'est pas évident, mais je pense que des choses sont faites, ça avance, pas toujours aussi vite qu'on le souhaite, mais les réglementations sont en train de bouger.
Alors, bien sûr, de nombreuses associations réagissent et demandent justement au gouvernement d'agir vite. D'ailleurs, le directeur de Génération Future a précisé qu'il ne pourrait pas se contenter de demi-mesures.
Non, parce que c'est vrai que là, quand même, cette étude est quand même très très inquiétante. Et il faut que ça bouge, il faut que ça avance. On a quand même au niveau des perturbateurs endocriniens, c'est pas nouveau, puisqu'on a déjà une première stratégie nationale qui avait été mise en place il y a une dizaine d'années. Et il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que les ambitions de la deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens et le nouveau plan santé environnement soient revus à la hausse pour entamer la disparition rapide de toutes ces substances. Alors on s'attaque à des problèmes économiques, à des problèmes problèmes industriels, mais oui. Je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes.
Alors, je reviens sur les enfants, Jean-Louis, qui sont en première ligne. L'enfance est vraiment en danger. Par exemple, plus d'un millier d'enfants présentent chaque année des signes de la puberté avant leurs 8 ans. Responsables, donc, les perturbateurs endocriniens. Un autre exemple, on croit bien faire en protégeant nos enfants avec de la crème solaire. Et en fait, on retrouve dans leur rang les ingrédients de cette crème, dépassant ainsi les normes toxicologiques. Bon, il faut vivre finalement dans une bulle, Jean-Louis, ne plus manger, ne plus rien faire, ou alors, et le grand optimiste que vous êtes va peut-être nous donner une ligne de conduite pour nous préserver, parce que là ça devient inquiétant.
Le problème, c'est qu'il faut être très très vigilant. Bon, vous parliez des crèmes solaires. Mm. Je pense que bon, il y a maintenant des outils. Je pense il y a un moteur de recherche qui a été mis en place par Que Choisir sur tous les produits cosmétiques. Ben, il est bon, avant d'acheter un produit, d'aller regarder justement sur ce moteur de recherche et d'aller voir un petit peu les produits qui sont les moins toxiques, qui sont exempts de perturbateurs endocriniens. Et ce qui peut être inquiétant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai découvert que des crèmes qui sont données par des dermatologues, par le CHR par exemple, ben ils sont classés rouges, porteurs de perturbateurs endocriniens. Moi, j'ai signalé à la dermatologue, et donc effectivement, c'est pas des sujets qui sont pris en considération, et donc elle a sorti son téléphone, et puis elle a été regarder justement ce moteur de recherche, et elle m'a conseillé une autre crème. Mmh. Donc je pense que là aussi, il y a un gros travail à faire au niveau du personnel médical,
qui
n'est justement pas au fait de tous ces problèmes.
Mmh. À tout niveau, il y a du travail à faire à tout niveau.
Et je pense aussi qu'il y a des recommandations aussi maintenant assez simples à faire, comme l'aération des logements. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est fondamental. L'aération, la pollution intérieure est quelque chose de hyper important. Et il est important d'ouvrir ses fenêtres, c'est pas compliqué, d'aérer pour justement diminuer l'imprégnation à tous ces perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans les produits d'entretien. Ça c'est simple à faire.
Et un de ces jours, on en parlera justement de ces fameux produits d'entretien, parce qu'il y a beaucoup à dire.
Énormément à dire, eu une soirée là-dessus. Avec un spécialiste de la question, et je pense que c'est quelque chose... c'est des actions qui sont assez simples à faire, finalement.
Tout à fait. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, dans le même contexte, nous parlerons pesticides, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire, et puis ça bouge. Jean-Louis, merci. Je rappelle que vous êtes président de l'association L'Étrême Nature, et d'ailleurs, je crois savoir que vos vacances ont été studieuses, parce que j'ai envie de dire bienvenue sur le site.
Tout à fait, puisque la communication est importante, et il y avait une nécessité de rénover, de simplifier notre site Internet. Et c'est la tâche à laquelle je me suis attaqué cet été. Et donc, le nouveau site est maintenant en ligne.
Voilà, à fait.
C'est www.l'étrême-nature.org.
Et il y a même plus simple. Dans un moteur de recherche,
on cherche
l'étrême nature. Il n'y a pas de problème. On arrive directement dessus. Et puis, Jean-Louis, alors, c'est aujourd'hui la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Alors, vous nous rappelez pourquoi elle est aussi importante, cette couche?
La couche d'ozone, ça désigne la partie de la stratosphère qui contient une quantité relativement importante d'ozone. Bon, la partie importante, c'est de l'ordre de 1 pour 100 000. À haute altitude, la couche d'ozone est utile. Elle absorbe la plus grande partie du rayonnement ultraviolet qui est dangereux pour les organismes. Donc elle a un rôle protecteur pour les êtres vivants, les écosystèmes. Et donc, ce n'est qu'à la fin des années 70 que des scientifiques ont mis en évidence une diminution de la couche d'ozone, c'est ce qu'on a appelé le trou de la couche d'ozone. C'est un trou qui grandit au printemps dans l'Antarctique, c'est-à-dire à la fin de la nuit polaire, pendant plusieurs mois avant de se réduire au printemps. Et d'autres études ont confirmé ce problème. Donc ça a été à l'origine de la création du GIEC et de la signature du protocole de Montréal qui vise à bannir la création par l'industrie de substances chimiques chlorées, les CFC, qu'on trouve dans les réfrigérateurs, les climatiseurs. Donc, l'ozone, il y a le bon ozone et le mauvais ozone. Il faut savoir, Selon l'altitude, on a le bon ozone quand il est présent dans la stratosphère parce qu'il nous protège des rayons ultraviolets et de ses effets. Et on a le mauvais ozone qui se forme dans la troposphère, c'est-à-dire la couche basse de l'atmosphère. Il est mauvais car c'est celui que toutes les espèces animales, dont l'homme, sont amenées à inhaler et qui présente selon sa concentration une certaine toxicité. Donc il y a le bon et le mauvais ozone et donc c'est pas des choses toujours très simples à comprendre.
Comme il y a le bon et le mauvais cholestérol.
Voilà, tout à fait, exactement.
Alors justement, cette journée internationale existe depuis 1994. Est-ce que ça a porté ses fruits depuis, Jean-Louis ?
Alors oui, ça a porté ses fruits, puisque en 2011, le trou de la couche d'ozone avait atteint des valeurs records dans l'Arctique. Et en 2014, il y a eu une stabilisation et un début de résorption. Et en 2016, on a une étude qui a été publiée dans la revue Science, a montré une réduction du trou de la couche d'ozone de 4 millions de kilomètres carrés depuis 2000, soit environ la moitié de la superficie des États-Unis, ce qui n'est pas négligeable. Mais attention, hein, cette amélioration qui reste quand même à confirmer, s'explique donc en partie par la diminution des gaz chlorés, hein, les CFC dont on a parlé, mais aussi par l'effet de serre anthropique, c'est-à-dire l'effet de serre qui est provoqué par les hommes. En effet, le réchauffement qui est induit par le gaz à effet de serre, ça ralentit les réactions chimiques qui détruisent l'ozone. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Si on a une diminution de la couche d'ozone, en gros, du trou d'ozone, c'est parce que en fait on a un effet de serre. Donc attention, c'est pas très simple, mais ça veut pas dire que parce que le trou de la couche d'ozone diminue qu'on est sauvé.
Tout à fait. Donc, en fin de compte, en conclusion, on a compris que, bien évidemment, il reste encore à faire, beaucoup, beaucoup, car n'oublions pas quand même que le climat et justement cette disparition de couches d'ozone, eh bien, vont de pair.
Ah ben, tout à fait, hein, puisqu'on a bien, on a l'exemple que si on regarde uniquement la couche d'ozone stratosphérique, on peut se dire, ah ben, chouette, on a réduit le trou de la couche d'ozone, mais on l'a réduit en partie parce que, en fait, on avait développé l'effet de serre. Donc, il faut être très vigilant, il faut regarder les problèmes dans leur amplitude complète.
Et oui, pas toujours simple, n'est-ce pas Jean-Louis ? Merci, on vous retrouve la semaine prochaine ?
Tout à fait.
Eh bien, je vous dis donc
bonne semaine.
À lundi prochain, très très bonne semaine à vous.
Bonne semaine, au revoir.
Au revoir.
Des aurores et nos baisers que des baisers, boule unique, voilà notre amour sous les coups de pied du jour le jour, car tout s'use si l'on se serre, couche d'ozone et effet de serre, il trouve pour ce souci le drôle de zèle des facéties. Valdingue et changer sa bobine pour retrouver l'aubépine. Les cœurs nous piquant davantage. Changeons qui nous sommes, changeons d'âge. Car nos aurores ne sont que des aurores et nos baisers, des baisers. Les congèles de la vie provinciale prennent notre cœur et nous le rendent. Car tout s'use si l'on se serre, couche d'ozone et effet de serre, il se déguise et il te ment, il met la main sous tes vêtements, c'est quelqu'un d'autre et cette nouveauté rend ta joue plus colorée, c'est quelqu'un d'autre et pourtant c'est nous. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? car tout s'use si l'on se sert. Couche d'ozone et effet de serre. Il trouve pour ce souci le drôle de zèle des facéties.
Alain Souchon sur Radio Plus. Et justement, on reste dans le souci de la préservation de notre environnement avec Bertrand Trinel, qui, comme vous le savez, a un amour infini de la nature et qui nous apprend donc à jardiner bio.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Alors, bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Eh bien, je suis ravie de vous retrouver après cette fête de la tomate parfaitement réussie. Alors, je suppose que vous devez être fiers de ce travail d'équipe, car les résultats sont là, une forte affluence, de plus en plus de stands, des gens satisfaits. Et puis, ces tomates, dans toutes leurs variétés, dont la plus grosse pesait 1 kg 145 grammes. Record battu, Bertrand ?
Alors, tout d'abord, c'est vrai que c'est un travail d'équipe, donc je veux remercier les 140 bénévoles qui font que la fête soit réussie. Donc, merci à eux. Et puis, concernant la plus grosse tomate, eh bien non, c'est pas le record, parce qu'on a déjà eu des tomates de plus d'un kilo 2, je crois même plus d'un kilo 3. Mmh. Donc, mais déjà, 1 kilo 145, ça fait déjà une superbe tomate, hein, c'est assez impressionnant.
Oui, non, il y a de quoi manger à plusieurs là-dessus. Hein.
Ah, tout à fait.
Alors, toujours est-il que ce fut vraiment la fête. Hein. Il n'y a vraiment finalement que la pluie qui a fait défaut, Bertrand.
On me taquine là. Mais c'est vrai, on n'a pas eu de pluie. Alors, même si ça aurait été vraiment profitable au jardin, je ne vais quand même pas m'en plaindre.
Hein. Non.
Il n'empêche que l'eau manque toujours autant. Et ceci dit, je pense qu'elle finira par tomber. Et puis, espérons que ce ne sera pas des pluies torrentielles.
Oui, tout à fait.
Violentes, hein, qui n'auront pas d'inondation.
Donc vous voilà un homme heureux et satisfait après cette fête.
Alors, tout à fait satisfait, le temps s'est bien maintenu, les visiteurs étaient au rendez-vous, tout le monde était content, les exposants, les visiteurs et puis les membres du comité d'organisation, donc c'est super, on est très 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 satisfait de cette 14e année.
Et toujours plus de monde, je crois.
Et toujours un peu plus de monde.
Mmh. Ouais. Alors, à ce moment de l'année, le nombre de jours d'ensoleillement baisse, quoique, et les tomates manquent quelquefois de lumière pour mûrir. Alors, peut-on, Bertrand, cueillir des tomates encore vertes? Et quelle est votre astuce, justement, pour les faire mûrir? Pour les faire mûrir, pardon. J'allais dire, à part vous déshabiller devant elles pour les faire rougir, non.
Non, ça ne marchera pas, non. Pas évidemment, pas sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, bon, il fait encore du beau temps, donc on peut les laisser sur pied. Donc surtout, alors il ne faut pas enlever toutes les feuilles du plant de tomate, hein, je vois souvent chez certains jardiniers en cette période, hein, ils enlèvent toutes les feuilles, bah, c'est une grave erreur, parce que c'est dans les feuilles que se fabrique la sève élaborée, qui est riche en sucre. C'est cette sève-là qui va nourrir les tomates et leur donner du bon goût. Alors, on peut juste enlever une feuille par-ci par-là pour que la grappe de tomates reçoive les rayons du soleil, mais surtout laisser le maximum de feuilles possible. Alors, et puis dans quelques temps, bah, forcément, les températures vont diminuer, hein, le temps va changer. Bah, là, on pourra cueillir toutes les tomates encore vertes et on les place individuellement dans une feuille de papier journal hein, et on les laisse mûrir là-dedans. On finira de mûrir dans le papier journal, sans problème.
Alors voilà, après cette journée mémorable qui est le point d'orgue de votre association des paysages, des jardins et des hommes, nous voilà donc déjà mi-septembre. Alors petite question, quelques jardins en carré se vident de toute culture. Alors à cette époque de l'année, Bertrand, peut-on encore profiter d'eux et y semer ou alors y planter quelque chose ?
Alors effectivement, les jardins en carré, ben, se vident, hein, les carrés se vident forcément. Mais au jardin de l'ermite, certains carrés sont toujours occupés, par exemple, par des plantes condimentaires. Condimentaires vivaces comme la sauge, l'hyssope, la sarriette, on a de l'oseille, on a de l'origan, etc. Mais également par des poireaux perpétuels, par de la ciboulette normale. On a également de la ciboulette chinoise qu'on laisse en place, hein, de la ciboulette africaine, de la ciboulette américaine. On a de l'ail rocambole, de l'oignon rocambole, de l'oignon patate, ou encore il y a encore des fraisiers dans les carrés. Par contre, dans les carrés qu'on aura libérés, ou qui sont libérés actuellement, on va planter l'engrais vert. Donc par exemple la moutarde, hein, qui va former un beau tapis protecteur. Et puis, ça va permettre de lutter contre l'érosion. Et la moutarde, ça a l'avantage de mourir quand il gèle.
D'accord.
Donc le gel, ça meurt, mais ça reste en tapis sur le sol. Donc les racines ont aéré en profondeur. Et la moutarde qui est gelée et qui reste au-dessus du sol protège encore le sol. Et puis on peut repiquer en ce moment de la mâche. Hein. Il n'y a aucun problème pour la repiquer. On en aura tout l'hiver et peut-être même au printemps. Et puis bientôt, dans quelques semaines, hein, dans deux semaines, trois semaines, on va commencer à replanter l'ail éléphant, l'ail violet. On va peut-être aussi, nous, essayer de planter quelques échalotes. Alors, les échalotes, on dit qu'il faut les planter en février-mars. Nous, on va tenter l'expérience de les planter ici en fin d'année, d'en planter quelques-unes en fin d'année pour voir comment ça se comporte pendant l'hiver et voir ce qu'on aura l'année prochaine.
Mmh.
Voilà.
D'accord. Alors, Bertrand Trinel, on parle beaucoup, c'est vrai, c'est dans l'air du temps, de communication entre les arbres, certes, mais aussi entre les plantes et les végétaux. Et on réfléchit beaucoup à une façon de vivre en meilleure intelligence avec elles. Alors, j'abordais la semaine dernière la notion de permaculture, comme nous l'avions déjà fait ensemble, en insistant sur le fait que la permaculture favorise la coopération entre les végétaux et qu'elle pourrait être une solution pour nourrir la planète surpeuplé, et ce, bien sûr, sans produits phytosanitaires.
Alors, effectivement, la permaculture, c'est très à la mode en ce moment. Et moi, ça m'embête parfois un peu, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent cultiver leur jardin en permaculture. Or, la permaculture, c'est aussi avant tout une philosophie de vie, hein, qui ne se résume pas uniquement à cultiver un carré, comme on m'a déjà dit, un carré d'un mètre carré en permaculture, non. Non. Chacune de nos actions doit avoir le moins d'impact négatif possible sur la planète. Alors, par exemple, dans la philosophie de la permaculture, c'est au lieu d'acheter une tisane où chaque portion qu'on va acheter est enfermée dans un petit sachet papier, qui lui-même est enfermé dans un sachet plastique, qui tous les sachets plastiques sont enfermés dans une boîte carton, qui elle-même est enfermée dans un sachet plastique. Ben, non, c'est quand même incroyable.
Oui.
L'esprit de la permaculture sera de cultiver les plantes dans son jardin et d'en faire des tisanes fraîches, ou alors de les faire sécher pour ses besoins futurs. Alors bien sûr, si on aime le thé, ben, forcément, on ne va pas le mettre dans son jardin, parce que le Camellia sinensis ne va pas pousser vraiment très bien par ici, mais dans ce cas, on va acheter du thé en vrac. Alors, jardiner en permaculture, c'est quelque chose de très complexe, et il faut souvent beaucoup d'années pour être au top. Il faut une dizaine d'années à peu près pour être sûr de cultiver en permaculture.
Et puis de bien comprendre justement ce qui va ensemble, ce qui
exactement
et la communication. Oui.
Et puis chaque jardin est différent, parce que ce qui va pousser bien dans notre jardin, ce sera différent dans un jardin qui est à quelques kilomètres et parfois même à quelques centaines de mètres, parce que la terre n'est pas pareille. Alors de là à dire qu'on va nourrir toute la planète avec la permaculture, j'en suis pas sûr. Mais par contre, en revanche, la permaculture, c'est le respect de la vie. Alors, ça respecte la vie sous toutes ses formes. Donc la biodiversité augmente considérablement dans un jardin permaculturel, c'est évident. Donc plus d'insectes, plus d'oiseaux, plus de bactéries, plus de micro-organismes, de macro-organismes, c'est incroyable. Hein. Faut savoir qu'il y a près de 8 milliards d'habitants, je crois, sur la Terre en ce moment, hein, un peu moins, juste un petit peu moins. Et des études montrent que la planète peut en nourrir 12 milliards. On peut en nourrir 12 milliards sans aucun problème. Seulement, il faut changer drastiquement toutes nos habitudes de consommation. Et bien sûr, nos habitudes alimentaires en particulier, parce que et l'esprit permaculture va dans ce sens-là. Hein, quand on voit qu'on apporte de la nourriture animale alors de façon énorme, considérable, c'est monumental ce qu'on apporte comme nourriture animale, tout ça pour nourrir nos animaux par ici, alors que c'est produit dans des pays pauvres, qui ont du mal à nourrir leur population, il y a de quoi se poser des questions, quoi. Je pense qu'il va falloir inévitablement réduire notre consommation de viande. Bon, après, on verra. Après, on est face aussi à un réchauffement climatique qui, si ça s'accentue, bah, on risque d'être mal quand même.
Hein. Tout à fait.
C'est mal.
Alors, on n'oublie pas que, justement, on n'oublie pas que la Terre est la planète des plantes sans lesquelles elle serait comme Mars, c'est-à-dire un vulgaire bout de roche, comme l'affirme le neurobiologiste Stefano Mancuso. Alors, Bertrand, il paraît que pour l'instant, le raisin est magnifique. Et puis, pour les vendanges, eh bien, ça y est, c'est parti. La qualité est là, peut-être moins la quantité à cause de la sécheresse, mais comme toutes les années, en neuf, on aura une bonne cuvée, dit-on. Mais le raisin ne sert pas qu'à faire du vin, car il peut aider notre organisme à éliminer les toxines accumulées. C'est ce qu'on appelle une cure détox. Et vous êtes un grand partisan, je dirais même pratiquant, avec du raisin bio, bien évidemment, Bertrand.
Alors oui, effectivement, la cure de raisin va nous aider à éliminer bien des toxines accumulées durant l'année. Alors c'est une mode de diète hein, qui permet au corps de se reposer. Alors attention, forcément, comme vous le dites, hein, il faut absolument ne manger que du raisin bio afin de ne pas se gorger de pesticides. Hein, ce serait vraiment contre l'effet contraire de l'effet désiré. Alors il s'agit simplement de manger que des raisins bio, rien d'autre. Alors c'est bien sûr boire de l'eau. Pardon. C'est mieux d'acheter plusieurs variétés de raisins, comme ça on peut varier un peu les goûts. Hein. On en mange à volonté lorsqu'on a faim. N'importe quelle heure de la journée, on mange du raisin quand on a faim. La cure de raisin peut durer une journée, deux jours, trois jours, quatre jours, parfois plus. Hein. Il n'y a aucun problème. Et l'effet revitalisation est vraiment extraordinaire. Hein. Donc, il faut quand même savoir une chose, quand on commence une cure ou qu'on commence un jeûne, et la première journée ou la seconde journée, on peut avoir des maux de tête. Hein, parce qu'on élimine tous les déchets qui sont dans le corps, on élimine beaucoup, tout ce qui est dans le sang, tout ce qui est dans le corps va dans le sang, on élimine, et du coup, on a des maux de tête, on peut avoir des boutons, tout ça, mais tout ça revient dans l'ordre rapidement, et après, on est vraiment bien.
D'accord. Alors, et puisqu'on parle de respect de l'environnement, avant la saison un peu plus froide, on aime bien nettoyer ses allées ou ses terrasses des mauvaises herbes. Alors Bertrand, une petite confirmation, il y a une grande surface qui donne la recette d'un désherbant écologique. Alors, je vous donne la recette, ça fait 5 litres de vinaigre à 14 ou 20%. Bon là, je sais pas où on le trouve, parce que 14 et 20%, ça n'existe pas vraiment dans le commerce. 1 kilo de gros sel, 3 cuillères à soupe de liquide vaisselle et 3 litres d'eau, tout cela à mélanger et à pulvériser dans les allées sous le soleil. Alors, qu'en pensez-vous de cela ?
Oui, c'est sous le nom de désherbant écologique, hein, qu'on trouve ou qu'on fabrique, hein, parce qu'il y a des gens qui fabriquent peut-être pas que du vinaigre, hein, simplement que du vinaigre blanc. En fait, s'il est effectivement nocif, soi-disant pour les mauvaises herbes, hein, il le sera tout autant pour les végétaux aux alentours. Hein.
Oui.
Il le sera également pour la vie dans le sol, puisqu'il finira par tout stériliser en détruisant tous les micro-organismes qui y vivent. Hein. Et les plantes qui sont proches, qui ont les racines qui s'étendent sous le sol, vont donc capter et absorber ce sel. Les plantes stockent le sel, elles l'éliminent pas. Donc, à force de stocker le sel, eh ben, arrivé à une certaine quantité, ben, toutes les plantes qui ont stocké cette quantité de sel meurent, tout simplement. Mmh. Donc, on peut... Alors, il faut éviter... Moi, je vous dis, il faut arrêter avec tous ces produits soi-disant écologiques. Hein.
Mmh.
Par contre, si on a une allée de cailloux, ben, il existe maintenant des petites binettes spéciales. Elles sont rondes, elles sont ajourées. Ce sont des binettes à pousser, ça va très bien pour désherber, ça va tout seul. Et bien sûr, il ne faut pas attendre que l'herbe soit arrivée à 50 cm de haut, hein, il faut le faire régulièrement. Donc, les désherbages, bah, ça se fait à la main.
Mmh. Hein,
et puis, les herbes qu'on ramasse à la main, bah, elles vont au compost. Hein, y a pas 36 solutions écologiques pour faire les choses. Il existe des tas de méthodes naturelles, bon, mais c'est assez simple quand on s'y prend assez vite de nettoyer une allée de jardin.
Mmh. Donc, vous confirmez que ce désherbant soi-disant écologique, bon...
Alors, je dirais que ça marche, ça fait mourir les mauvaises herbes.
Mais ça fait...
Mais ça fait mourir tout le reste aussi. Donc, c'est exactement comme un désherbant chimique. En fin de compte, c'est pas mieux, quoi. Peut-être en mettre un peu plus de doses, mais c'est pareil.
Et toujours, bien sûr, toujours, comme le disait Jean-Louis, toujours se méfier et puis faire le bon choix et se méfier un petit peu de ce qu'on trouve partout et parce que bon, c'est toujours les grandes surfaces. Hein, on ne fera pas d'autres.
C'est toujours
comptes.
Les grandes surfaces. Et de toute façon, quand on voit que le Roundup de Monsanto n'est plus à la vente, mais n'empêche que vous allez dans des jardineries, vous voyez encore du Roundup.
Oui.
Mais à l'intérieur, c'est plus le Roundup, c'est plus la formule de glyphosate qu'il y avait avant, mais il y a du vinaigre, il y a des choses comme ça, du sel, du vinaigre et tout ça. Donc c'est quand même nocif, c'est toujours aussi nocif, c'est toujours un peu trompeur, mais c'est nocif.
On a bien compris, Bertrand. On a bien compris qu'il faut se mettre au boulot avec la petite binette.
Tout à fait,
oui. Voilà, bien, merci Bertrand, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci beaucoup.
Je vous souhaite une très très bonne journée et surtout une bonne semaine.
Bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir.
À deux pas de l'île aux oiseaux, des cols verts, des cygnes et des paons, je regarde les ronds dans l'eau, les moineaux, les jeux des enfants. Je suis bien au jardin des plantes, sur un banc assis au soleil. Quelque chose, une odeur de menthe, me revient d'un lointain sommeil. Je revois le marché aux puces, le cirque d'hiver, un mendiant devant l'autobus, le halo d'un vieux réverbère.
choses qui me rappellent des rues grises et des manteaux noirs, la craie bleue traçant des marelles, les gravures d'un livre d'histoire, quatre planches, un rideau qui s'ouvre, Scaramouche et des musiciens, un dimanche au musée du Louvre, des corbeaux, des dieux égyptiens. J'ai pleuré pour quelques amandes, un ballon à la tombola, et voilà que je me demande où je suis, ce que je fais là. Si je suis au jardin des plantes, sur un banc assis au soleil, et quelle est cette odeur de menthe revenue d'un lointain sommeil?
Gilbert Lafaille. Et alors, si vous aimez les beaux jardins, eh bien, sachez que les 21, 22, 29 septembre seront des journées portes ouvertes au jardin d'Astrée de 10h à 18h. Le jardin d'Astrée, c'est 2000 mètres carrés de vraie nature. De vraie nature au cœur de la ville, de la vallée de la Lys. Alors là, tout est naturel, pas de traitement chimique, pas d'insecticides, même bio. Le compagnonnage, compostage, et le mulching sont les maîtres mots, ainsi que l'utilisation des plantes sauvages au jardin. Alors j'énumère papillons, les insectes et les oiseaux. Ensuite, il y a les 1200 plantes vivaces, arbres et arbustes plantés ça et là au gré des allées. Le but de l'ouverture du jardin est l'échange entre passionnés de la nature et son respect. Et dans ce cadre bucolique, eh bien, vous pourrez choisir au rythme de vos envies parmi les quelques 400 variétés de plantes vivace présente en jardinière, celle qui fera le rêve de votre jardin. Les plantes sont toutes comme le jardin, cultivées de façon naturelle. Alors l'adresse, c'est 274 rue Saint-Vincent à Averskerque, et le numéro de téléphone est le 06 45 92 62. Et puis dans le cadre des journées du patrimoine, eh bien, vous pourrez visiter le jardin de Maric, c'est-à-dire à Aire-sur-la-Liste, aux 60 rue du Portugal. Vous pouvez vous rendre compte en tapant dans un moteur de recherche « Jardin de Maric ». Voilà, et eh bien, je vous retrouve, si vous voulez, tout de suite après la pub. C'est en musique, une bonne façon de passer la journée, si vous le voulez bien. Eh bien, ce sera donc Kaléidoscope pour le plaisir de vos oreilles. Pour une autre édition de L'Air du Temps, ce sera la semaine prochaine à la même heure. Et rendez-vous est pris, bien sûr.